appropriation culturelle, francophonie, crise des migrants, des sujets qui fâchent. On en discute aujourd'hui avec nos trois invités, les écrivains Alain Mabankou, auteur en cette rentrée des Cigognes sont immortels, paru au Seuil, et Gauze pour son camarade papa au Nouvel Attila. Rejoint pour cette deuxième et dernière partie par l'anthropologue Jean-Loup Amsel, auteur de En quête d'Afrique, un livre de dialogue avec le philosophe Souleymane Bachir Dieng, professeur à l'Université Columbia de New York. Un livre qui paraît chez Albin Michel. Pour vous, l'universalisme est en crise, menacé par une fragmentation, ethnicisation des questions sociales. Cette lecture que vous avez d'ores et déjà développée, détaillée, et notamment dans L'ethnicisation de la France, un ouvrage paru en 2011. Bonjour Jean-Loup Amsel.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. L'universalisme, le rapport Afrique-Occident, la langue, ce sont des thèmes que vous travaillez depuis longtemps. Pourquoi rouvrir ce dialogue aujourd'hui avec ce confrère américain, sénégalais et américain? Ce contre quoi vous nous avez toujours mis en garde, en tout cas depuis plusieurs années, cette pensée décoloniale avec une vision, faut-il dire, racisée, racialiste du rapport de classe. Est-ce qu'elle est en train de gagner du terrain pour vous dans le champ des idées?
Oui, elle gagne certainement du terrain. Enfin, la pensée décoloniale aujourd'hui est certainement une pensée qui est parmi les plus importantes. Mais moi, ce que je reproche, disons, à la pensée décoloniale et à son ancêtre, la pensée post-coloniale, pour autant que tout ça forme un tout homogène, c'est qu'en fait, cette pensée a tendance à substituer une problématique de la race et de l'identité à une problématique de l'appréhension de la société en termes d'affrontement entre groupes sociaux. C'est ça que je reproche, et c'est aussi ce que je reproche un peu à cette pensée, c'est l'abandon de l'universalisme, non pas un universalisme de surplomb, c'est-à-dire d'imposition des droits de l'homme aux autres cultures, aux autres pays, aux autres continents, mais plutôt l'idée, ce que je voudrais préserver en défendant l'universalisme, c'est l'idée qu'il y a une possibilité de communication entre les différentes cultures, entre par exemple l'Afrique et l'Europe. Par exemple, je prends un exemple. Moi, je suis anthropologue, je suis spécialiste du Mali, enfin de l'Afrique de l'Ouest, du Mali. Et ce qui m'a frappé, en fait, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on a toujours tendance à exotiser l'Afrique, à en faire un continent culturellement radicalement différent, ce qui m'a toujours frappé, enfin, c'est que lorsqu'on examine les théories du pouvoir qui prévalaient dans la France de l'Ancien Régime et en Afrique précoloniale, on trouve des ressemblances frappantes. En Afrique, c'est l'opposition entre gens du pouvoir et gens de la terre. Les gens du pouvoir venant de l'extérieur, ce sont les étrangers qui s'imposent aux gens de la terre, qui sont les maîtres du sol et les maîtres du rituel. Et on retrouve exactement la même théorie du pouvoir dans l'Europe de l'Ancien, dans la France de l'Ancien Régime. Par exemple, ce qu'a exhumé Michel Foucault dans « Il faut défendre la société », où il met en exergue l'interprétation de l'histoire de France et de l'histoire de l'Angleterre en termes, dans les termes d'un affrontement entre les Francs envahisseurs venus de Germanie qui s'imposent aux Gaulois ou aux Gallo-Romains autochtones. Si on prend l'Angleterre, c'est les Normands envahisseurs qui s'imposent aux Anglo-Saxons.
Mais donnez-nous donc juste un exemple, Jean-Loup Amsel, en quoi pour vous l'universalisme est menacé aujourd'hui, où l'est-il?
Alors l'universalisme est menacé parce qu'effectivement, si sur le plan économique, bon, il y a mondialisation, globalisation, homogénéisation, je pense que à l'échelle globale, au contraire, ce qu'on constate, c'est la montée des ethno-nationalistes, des ethno-différentialistes, notamment en Europe. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement, avec ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en France aussi. La montée du Front National, évidemment, elle est un peu occultée par le système électoral français. En Allemagne, avec l'AfD, enfin, la chasse aux migrants qu'on constate dans l'ex-RDA, mais pas seulement dans l'ex-RDA, c'est quelque chose qui prend extrêmement d'importance. Et je pense que c'est cela. Moi, je suis matérialiste, même j'ose le dire, je suis marxiste, et je pense qu'il faut préserver cette idée d'une pensée traversante, qui traverse les cultures, qui traverse les continents, mais aussi qui traverse ce que j'appelle les identités verticales, c'est-à-dire les identités de race, les identités de genre et les identités religieuses. Je pense qu'on peut pas parler des races en général. On peut parler des Noirs, des Arabes, des Roms, des Juifs en général. Ces races, entre guillemets, sont traversées. Mais aux États-Unis, il y a une classe moyenne supérieure noire. Tous les Noirs ne sont pas pauvres. Il y a des Noirs qui sont aisés. en France, il y a une bourgeoisie, comme on l'appelle. Eh bien, pour le genre, c'est la même chose. Il y a c'est ce que j'appelle les classes de race, les classes de genre. Et pour ce qui concerne le genre, c'est exactement la même chose. Il faut distinguer les classes à l'intérieur des LGBTQI, etc. Donc, je pense qu'il faut... De la même façon, il faut avoir une appréhension des phénomènes religieux qui ne soit pas une appréhension, spiritualiste, mais voir en quoi, par exemple, la laïcité ou bien l'islamisme. Par exemple, moi, je travaille au Mali où il y a un affrontement au sein de la classe dominante entre les laïcs et les islamistes. Eh bien, ça n'est pas un affrontement proprement idéologique, mais ou plutôt ça correspond à des positions différentes au sein de cette classe dominante qui s'affrontent à propos d'enjeux qui sont des enjeux politiques avec une manipulation des masses à leur profit.
La question des migrants devenus la crise migratoire en Europe, économique pour l'égérie allemande de Die Linke en Allemagne, vous l'évoquiez à l'instant Jean-Louis Absen, qui appelait récemment à lutter contre la bonne conscience de gauche sur la culture de l'accueil. Est-ce que la menace est aussi et surtout culturelle? Ce sont des mots qu'on a entendus dans la bouche de Laurent Wauquiez. Écoutez-les dans ceux de la philosophe Chantal Delsol.
C'est une richesse aussi. Enfin, c'est, à mon avis, surtout, avant d'être une richesse, c'est surtout, effectivement, une menace culturelle. Parce que nous n'avons pas l'habitude de vivre de cette manière. Et je pense pas que nous ayons envie de brandir la liberté comme un fusil à un seul coup. C'est-à-dire que on serait libéral en les accueillant, et c'est bon, très bien. Et puis ensuite, on fermerait la porte à la liberté.
La question de la culture
centrale. On n'a pas trop envie d'applaudir, là. C'est redoutable ce qu'elle dit.
Oui, oui.
Elle a une définition claire et figée de la culture. La culture, c'est ça, à un moment. Ça peut pas être autre chose. Dès que ça va bouger, ça change, c'est plus la culture. Mais la culture, c'est polymorphe. Et ça évolue dans le temps. La France, on n'est pas dans la France du XVIIe siècle. Voilà, quoi.
Mais ce qu'elle vit, c'est l'islam. La menace culturelle, pour elle, elle le dit dans l'interview c'était sur France Inter, je crois, enfin, peu importe. La menace, c'est l'islam. L'islam qui restait au stade du Moyen-Âge, à l'époque du Moyen-Âge, qui n'a pas connu les Lumières. Et donc, les migrants qui sont musulmans, elle identifie complètement migrants, tous les migrants ne sont pas musulmans, elle identifie complètement les migrants, et donc les migrants ne peuvent pas s'intégrer. Donc, elle considère que l'islam n'a pas évolué depuis le Moyen-Âge, ce qui est complètement faux. L'islam s'est transformé, comme toutes les religions. Et il y a eu des lumières dans l'islam. Et donc, en fait, c'est ça qui est... En fond, elle reprend les idées de Renaud Camus, le grand remplacement. Le grand remplacement de la culture occidentale par la culture musulmane. Enfin, c'est Poitiers, quoi. C'est Charles Martel qui combat les musulmans à Poitiers.
Mais est-ce que vous dites aussi que quand il y a eu colonisation, on ne s'est pas posé la question de la menace culturelle les pays colonisés, c'est-à-dire la destruction des cultures qui a pu être opérée au moment de la colonisation française, par exemple, dans les colonies en Afrique. Est-ce que vous dites aujourd'hui, c'est l'heure du retour du bâton, c'est peut-être l'heure de payer le prix, ou comme l'avait dit il y a quelques années Leonora Miano, il est peut-être temps aussi pour l'Europe de payer l'addition, cette facture de la colonisation?
Mais je pense que la question même de la colonisation, quand on lit le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, on sait que la colonisation en soi est une sorte d'annexion d'une culture sur une autre. On sait que c'est une sorte d'anéantissement de ce qu'on est. C'est difficile pour nous autres qui avions été colonisés, pour nous autres qui avions subi cette sorte de domination, de faire une sorte d'opération de libération interne. Ce n'est pas forcément un retour de bâton qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt la conséquence du fait que en France, on n'a jamais eu un vrai débat sur la question coloniale. La France a toujours été divisée entre ceux qui se bombent les pectoraux en disant que l'œuvre que nous avons faite a payé, regardez, aujourd'hui on a des écrivains, les gauzes, etc. Et d'autres, voilà, d'autres qui vont se dire, écoutez, nous avons suivi pendant longtemps, il faut maintenant qu'on passe à une discussion plus sereine. Il faut regarder la colonisation, la décomposer et voir dans quelle mesure il faut traiter les questions aussi qui sont devant nous au présent.
On ne s'est jamais non plus posé la question de la culture, vous trouvez, Gauze aussi, qu'est une culture,
Je n'ai pas de souci avec la culture qui est la conséquence de la colonisation. Justement, c'est pour ça que je suis étonné que les gens ils aient peur de ça. Quoi. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Je suis né en 1971. Qu'est-ce que j'y peux? Je nais dans ce truc-là. D'ailleurs, je nais dans une espèce de grande forfaiture qu'on appelle les indépendances. On me définit pas ce que c'est que la dépendance et puis on me parle de la dépendance, de l'indépendance. Donc c'est un peu compliqué. Moi je nais en acceptant d'emblée ces deux cultures-là. Et d'ailleurs j'ai encore une théorie, ce que j'appelle la théorie des Superman que nous sommes, c'est-à-dire que ça est pour le coup de l'exemple de l'enrichissement par l'invasion. Moi je dis jamais colonisation, je me mets du côté de ceux qui ont été envahis. Donc l'enrichissement par l'invasion, donc créé par le mouvement que les Français appellent colonisation, ils peuvent dire colonisation parce que eux ils font le chemin pour venir vers l'Afrique. Mais chez nous, c'est une invasion. C'est important de dire en tant que moi j'ai envie de rétablir ce terme-là en tant qu'Africain, de dire qu'on a été envahi. Donc la richesse que m'apporte cette invasion, c'est d'accepter même de force ou de gré la culture de l'envahisseur. Tout en gardant la mienne, ça fait de moi deux personnes incroyablement riches. J'ai la même culture que toi, par exemple, camarade.
C'est moi, camarade Olivia.
C'est toi, camarade, j'ai la même culture. Nous avons lu les mêmes bouquins. Nous sommes partis dans le même genre d'école. Nous avons regardé les mêmes films. Nous avons écouté la même musique pourrie des années 80, etc., etc. Mais toi, tu n'as pas la musique de ma grand-mère dans la tête. Tu n'as pas la mythologie Baoulé ou Akan dans la tête. Moi, j'ai ces deux-là. Donc, il fait que je peux te parler, toi, tout de suite, sur un certain mood, et ensuite m'adresser à Alain Mabankou sur un autre mood, et comprendre en même temps ce que dit...
Jean-Louis Amsel.
et c'est ça. Et je ne vois pas...
Cette double culture, elle n'est pas excluante, elles ne sont pas forcément incompatibles, elles ne s'opposent pas forcément,
Jean-Louis Amsel. Pas une objection, mais une addition. Non, je pense au livre de... En écoutant Gauze, là, je pensais au livre de Joseph Tonda, l'impérialisme post-colonial, justement, où il montre que l'imaginaire occidental est complètement envahi par l'imaginaire, par la sorcellerie africaine, le complotisme, les Illuminati. En fait, il faut pas opposer la rationalité occidentale à l'animisme africain, par exemple. La pensée occidentale est complètement animiste.
La pensée occidentale a eu le tort de sous-estimer la cosmogonie de ces pays qu'ils étaient en train de coloniser.
Mais la pensée occidentale actuelle est complètement cosmogonique. Enfin, je reviens à Marx, quand il fait l'analyse du fétichisme de la marchandise, où il prend un concept qui vient du Golfe de Guinée, qui est emprunté à Bosman, qui était en traitant du Golfe de Guinée, concept qui a été repris par le président De Brosse. Il dit que la marchandise est un véritable fétiche qu'on adore. Et c'est la société de consommation, c'est Baudrillard, etc. Donc il ne faut pas opposer l'Afrique et l'Europe. En fait, on est complètement... Les deux continents sont plongés dans un animisme total.
Autre instrument régulièrement évoqué de domination culturelle, c'est la langue. Et même au-delà, la francophonie. Je vous propose de réécouter pour ouvrir cette discussion les mots de l'ancien du président du Burkina Faso. On disait Haute Volta, je crois, à l'époque. Il a été assassiné en 87, Thomas Sankara.
L'impérialisme, aujourd'hui, sait que il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. Nous l'avons choisi.
La langue comme instrument de domination pour Thomas Sankara. La langue française est la langue de la dictature, avez-vous également dit lundi, Alain Malencou,
pour expliquer votre... Il faut bien préciser.
On va préciser pour expliquer, entre autres, votre refus de participer au projet francophone d'Emmanuel Macron aux côtés d'une Leïla Slimani. Mais c'est la langue qui vous pose problème, ou c'est l'utilisation politique qui en est faite à travers cette institution qui est la francophonie?
Je pense que ma phrase n'avait pas été bien comprise à France Inter lorsque j'avais dit la langue française c'est la langue de la dictature, c'est-à-dire que en réalité ce n'est pas dire que la langue française est une langue de dictature, non, c'est-à-dire que tous les dictateurs africains de l'espace francophone assujettissent leur peuple en langue française, c'est-à-dire les discours, les biographies, tout se fait dans la langue française, et c'est injuste et c'est même suicidaire de laisser à ces gens le soin de se cacher derrière la langue française pour le faire. Mais en réalité, toute langue porte en elle des éléments de courtoisie, peut-être aussi même de brutalité, de violence.
Et même plus loin, pour beaucoup de penseurs, ça a été aussi un outil d'émancipation.
On a donné l'exemple tout à l'heure de Thomas Sankara qu'on vient d'entendre, qui parlait de la décolonisation pratiquement culturelle. Mais on avait eu cet élan avec Mobutu Sese Seko qui avait installé ce qu'on appelait la politique de l'authenticité. Il a assujetti son peuple en Lingala, c'est-à-dire en utilisant la langue la plus populaire pour abâtardiser le peuple. À l'époque, on disait zaïrois, c'est-à-dire on enlevait le prénom chrétien, on ne portait plus la cravate parce que ça symbolisait, on appelait la bacoste, c'est-à-dire abat le costume. C'était une sorte de chefferie africaine, mais en réalité une dictature tropicale, aux couleurs locales. La question, justement, même de l'universalité se pose. Peut-être que la dictature est plus dans le sens de l'universalité négative, même des êtres humains, que cette sorte de liberté que nous recherchons.
Gauze, la langue française, en l'espèce, puisqu'on parle d'elle, elle n'appartient à personne. C'est aussi ce que vous montrez dans Camarade Papa, que la langue française n'est pas homogène, que chacun, au fil des années, se réapproprie une langue.
Comme dans souvent ce que je pense. Déjà, il faut que je salue Camarade Thomas, où tu es.
Merci,
ça me fait plaisir de t'entendre là, ici, à France Culture. Et donc, la langue, c'est hyper important pour une chose. La langue est un véhicule de penser le monde alentour. Et la langue donne un ensemble de moyens pour réfléchir, une manière de réfléchir le monde. Donc, réfléchir en baoulé, c'est toute une cosmogonie, ou en bété, c'est une manière différente de voir le monde en français. Qu'en français, et réfléchir en français avec les moyens du français, des fois, c'est incomplet. Et l'une des plus belles choses qui soit arrivée au français, c'est d'avoir rencontré l'Afrique, justement. Pour ces Africains-là, qui sont la conséquence de cette invasion, donc ils se sont appropriés la langue, ils l'ont adaptée à leur manière de réfléchir. Ça leur a permis d'avoir des outils supplémentaires pour affronter le monde, ou bien quand ils n'en avaient pas, ils les inventaient. Et moi, je trouve ça jubilatoire que le français ait rencontré l'Afrique et tous ces autres pays-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas la laisser aux mains de cette grande institution qu'ils appellent francophonie, qui permet à la France de revenir par la fenêtre alors qu'on l'a chassée par la grande porte.
Vous, Gauze, vous avez dit ailleurs, je mets un point dans la figure du premier qui dit que Camarade Papa est un livre francophone.
Oui, c'est un livre français, c'est définitivement.
Oui, je voudrais dire quelque chose. Oui, dans le livre avec Souleymane Bachardian, je développe l'idée que les langues n'existent pas, mais les langues en général. Mais je vois un peu ce que dit Hugo, c'est-à-dire en fait, chacun en parlant crée sa propre langue. Il y a une appropriation individuelle. Chacun crée sa propre langue et les gens par la langue qu'il parle, quoi. C'est un peu tautologique ce que je vais dire, mais il n'y a pas de langue. On peut pas délimiter des langues de façon stricte, le français, le baoulé, le bété, etc. En fait, chacun puise dans un référentiel qui est beaucoup plus large que celui de son village, de sa région, de son pays, etc. Des éléments, et il se les approprie, ces éléments, et il crée un, ce que, ce qu'on pourrait appeler un idiolecte, c'est-à-dire un parler individuel qui doit être compris par les autres, parce que sinon, c'est pas une langue, hein, c'est le langage d'un fou. Mais chacun, et du coup, effectivement, je crois qu'il faut disjoindre totalement le français de la francophonie. Et je loue Alain Mabankou d'avoir refusé le poste que Emmanuel Macron lui a offert, contrairement à certains de ses collègues qui ont accepté des postes analogues.
Oui, d'ailleurs, pour des bonnes raisons peut-être oui. aussi.
Et donc, je pense qu'il faut absolument disjoindre le français de la francophonie et déconstruire le français et montrer que le français, comme d'autres langues d'ailleurs, doit être enfin approprié individuellement.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
13h17 sur France Culture avec l'anthropologue Jean-Loup Amsel et avec les écrivains Gauze et Alain Mabankou. L'un est franco-ivoirien, l'autre franco-congolais, l'auteur de African Psycho installé aux États-Unis où il enseigne la littérature. L'appropriation culturelle, c'est lorsqu'un emprunt entre les cultures s'inscrit dans un contexte de domination, selon la définition du sociologue Éric Fassin. Hommage ou récupération, danger ou liberté, sujet de polémique depuis quelques mois, des podiums, des défis aux scènes de théâtre. L'appropriation culturelle. Un chef britannique peut-il réinterpréter à loisir une recette de riz jamaïcaine sous son nom originel? Madonna peut-elle se déguiser en reine berbère? Robert Lepage peut-il évoquer l'histoire du Canada sans comédiens autochtones pour jouer leur rôle? C'était le cas dans Canada, dont les représentations ont finalement été annulées cet été. Le dramaturge canadien, déjà confronté aux critiques de l'appropriation culturelle avec son spectacle Slave, des comédiens blancs peuvent-ils porter la voix et la souffrance des esclaves noirs, extrait.
Voici Slave, le nouveau spectacle de Robert Lepage sur le champ des esclaves. Avant même de l'avoir vu, des personnes s'élèvent contre cette proposition artistique.
Nous, on aurait aimé une promotion qui est sur un chanteur noir en avant-plan, en fait. On en a marre d'être en arrière.
Slave met en vedette la chanteuse Betty Bonifaci. Elle est accompagnée de 6 choristes, dont 2 sont noirs. Ce n'est pas assez, dit cet admirateur de Robert Lepage.
Comme afro-descendants, nous sommes tous blessés, énormément. On est blessés depuis des générations. On ne dit pas qu'un homme blanc n'est pas capable d'avoir la sensibilité pour comprendre notre expérience, mais d'en parler en profondeur...
L'appropriation culturelle, ce concept qui est ressorti littéralement ces derniers mois. Qui s'approprie quoi? Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer de quoi il est question dans cette polémique? Ça veut dire qu'on ne peut pas être un blanc comme Robert Lepage et vouloir redonner la parole, faire écho sur scène à ses voix, comme avec ce spectacle Slave.
Souleymane Bachir Diagne et moi-même, là-dessus, nous avons des points de désaccord dans le livre. Mais là-dessus, sur le thème de l'appropriation culturelle, nous sommes d'accord et nous pensons que des blancs, par exemple, peuvent exprimer et représenter la souffrance noire. Je pense que c'est une vieille histoire, hein, ça date des Black Minstrels aux États-Unis, hein, des blancs qui étaient grimés en noir. On a même reproché à Elvis Presley de s'être approprié la musique noire dans le rock'n'roll. Donc c'est l'idée que bon la culture occidentale s'approprie des cultures, pas seulement la culture ou les cultures africaines, mais d'autres cultures, je sais pas, ça peut être la culture rome, ça peut être la culture arabe, ça peut être, etc. Alors moi je pense que il faut essayer de disjoindre cette idée d'appropriation de sa connotation raciale, parce que on a d'autres exemples, là je sens que je vais m'attirer les foudres de mes co-débatteurs, mais je pense qu'il faut prendre d'autres exemples qui montrent que l'appropriation c'est un phénomène social en fait, et c'est un phénomène de classe aussi. Prenons l'exemple de Beyoncé et de Jay-Z, qui se sont appropriés l'affiche du film Tukibuki de Diop Mambéty, et affiche sur laquelle on voit un couple sur une moto et sur le guidon de la moto il y a des cornes de zébu. Ils se sont appropriés cette affiche pour leur dernier clip. Et donc il s'agit pas d'un phénomène interracial, hein, d'appropriation par des blancs de quelque chose qui viendrait de la culture noire ou de la culture africaine, etc. Je pense que le phénomène de l'appropriation, plus largement, c'est un phénomène social, phénomène de domination aussi un phénomène de domination de classe et pas seulement un phénomène de domination raciale.
Ce qui pose un problème, Jean-Louis Amsel, c'est simplement l'appropriation en tant que telle pose un problème parce que derrière, il y a une exploitation commerciale pratiquement cynique.
Pas toujours, ou artistique, si on prend le cas.
En général, ce qui énerve les gens, c'est que vous vous appropriez une culture que vous considériez, il n'y a pas longtemps, qu'elle n'existait pas, qu'elle n'avait pas de fondement, que ça relevait de la barbarie, et tout d'un coup, ça devient quelque chose qui est dans la mode. On le fait. Il y a des gens qui vont le faire de bonne foi. Moi, je n'ai jamais pensé que tous les Européens ou tous les Blancs étaient toujours pavés de mauvaises intentions lorsqu'ils allaient vers ces cultures noires. Quand je prends l'exemple, qui a défini le mieux le terme de la négritude ? On va dire que c'est Senghor, Césaire. Non, mais moi, j'ai compris le terme de la négritude en lisant Orphée noir de Jean-Paul Sartre lorsqu'il préfaçait justement le recueil de poésie de Léopold Sédar Senghor. Pourquoi ? Et c'était une définition qui m'intéressait parce qu'il faisait un parallèle justement entre la condition du noir de l'époque et la condition de celui qu'on appelle le prolétaire et que le noir devait comme descendre aux enfers pour ramener sa propre identité. Mais l'appropriation, celle de Beyoncé, on peut appeler peut-être c'est une inspiration. S'ils n'ont pas crédité, à ce moment-là, ça devient... Des droits. Il n'y a pas que ça. Mais regardez Manu Dibango, qui avait à l'époque un problème avec Michael Jackson, avec sa chanson « Mama Sam, Mama Sam, Mama Kusa, Mama Sam, Mama Sam ». C'était la même chose. Parfois, l'attitude même des Noirs américains qui vont vers les cultures africaines sans pour autant les créditer, cette attitude peut être considérée aussi qu'une appropriation.
Il faut peut-être juste entrer en cause, qui lui n'a pas hésité à se mettre aussi dans la tête de Dabili, un blanc du 19e qui se lance dans cette aventure coloniale. On va pas dire du tout que c'est une forme aussi d'appropriation culturelle, mais vous vous dites à ce moment-là, moi je me suis sentie autorisée parce qu'il y a cette double culture que vous évoquiez à me mettre dans sa tête pour comprendre. Sur les débats actuels, est-ce qu'il y en a qui sont légitimes et d'autres qui ne le seraient pas?
Moi je les connais pas ces gens-là en fait. Je trouve...
Tout dépend de l'intention
Ça me fatigue un peu. Comment on arrive à se caricaturer soi-même à ce point-là, en croyant lutter contre la caricature. D'ailleurs, c'est vos grands frères là, les Senghor et compagnie là.
Vous montrez à la main Banco.
Ouais,
c'est le grand frère Senghor.
C'est mon
grand père.
Pardon. Le grand père. Non, mais je veux dire, je comprends pas comment on en est arrivé à se caricaturer soi-même à ce point-là. D'ailleurs, ça montre...
Elle est où la caricature, pour vous, Gauze ?
C'est quoi la culture afro-descendante ?
Ah, mais c'est...
C'est le gospel ? C'est quoi ? C'est le R&B ?
Et donc
c'est compliqué, c'est beaucoup plus profond que ça. Et donc, juste s'arrêter là, quoi, pour dire, nous sommes propriétaires, il y a une espèce de copyright dessus. C'est quand même incroyable. Ce qui est intéressant, par contre, dans ce mouvement-là, c'est la capacité de se mobiliser autour d'idées vides que personne n'est capable de définir. Dans la même manifestation, vous pouvez trouver 125 définitions de ce truc. Et c'est ça, le monde d'aujourd'hui, que ça fabrique comme idée politique. C'est des espèces de grands éléphants blancs.
C'est même pas l'appropriation, puisque si on va même juste dans l'art, je veux dire que ce soit les Picasso, les cubistes, etc., ils se sont bien inspirés de
Demoiselle d'Avignon.
Donc c'est pas... Moi, je pense que parfois, c'est vrai. Nous sommes des champions dans l'accumulation des polémiques parce que on aurait vu quelqu'un qui aurait mis des tresses, du coup la tresse devient le symbole peut-être de cette culture.
Oui, c'est ce qui s'est passé sur des podiums.
Mais
nous sommes dans
un monde qui est en train de s'interconnecter. Nous sommes dans une interpénétration des cultures même. Donc voilà.
Alors on termine avec un dernier extrait et la conclusion de Jean-Loup Amsel qui nous a rejoint sur le tard. La voix du Sud-Africain Trevor Noah, noir et de gauche, présentateur du Daily Show, un des late shows américains les plus emblématiques. Après la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde de football, il s'est réjoui de ce que c'est une équipe d'Afrique, l'équipe d'Afrique qui a gagné cette compétition. Il a alors reçu une lettre de l'ambassadeur de France aux États-Unis qui le reprenait, mais non, c'était bien l'équipe de France.
The rich and various backgrounds of these players is a reflection of France's diversity.
La richesse et les origines diverses de cette équipe sont le reflet de la diversité française. Sans vouloir être méchant, je pense que c'est plutôt le reflet du colonialisme français. Ce n'est pas juste un hasard ce que ces joueurs ont en commun. Si vous regardez leur ascendance, vous vous dites « Hey, les gars, comment vous êtes devenus français? Comment est-ce que votre famille a appris à parler le français ?» Ah ouais, ok, je vois. Paul Pogba, N'Golo Kanté, je les ai tous regardés, j'aime ces joueurs. J'aime qu'ils soient africains et j'aime qu'ils soient français. Je ne rejette pas leur identité française, mais je pense qu'il ne faut pas non plus rejeter leur identité africaine. C'est pour ça que je trouve cet argument bizarre. Ils ne sont pas africains, ils sont français. Je me dis, pourquoi ils ne pourraient pas être les deux ?
La double identité française et africaine. On termine peut-être là-dessus. Oui. Comment ne pas les opposer ? Là, on entend bien à travers cet extrait de Trevor Noah, à la fois cette conception américaine de l'identité qui accepte totalement la double culture et qui nous renvoie, à travers la position de l'ambassadeur de France, à la perception française de ces questions-là, peut-être plus assimilationniste, si vous acceptez ce terme, Jean-Louis Amsel.
Moi, je pense que c'est pas une question d'opposition de valeurs entre le républicanisme assimilationniste et le français et le multiculturalisme américain. C'est, en fait, les États-Unis, bon, je parle sous le contrôle d'Alain Mabankou, qui est américain aussi. Les États-Unis et la France n'ont pas la même histoire. Les États-Unis, c'est un pays post-esclavagiste. La France, c'est un pays post-colonial, ce qui n'est pas la même chose. En fait, les Africains-Américains, comme on les appelle maintenant, hein, en fait, ils ne savent pas d'où leurs ancêtres viennent, de quel pays ils viennent. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ils revendiquent une identité africaine indifférenciée. Ça va peut-être changer avec les tests ADN, puisqu'avec les tests ADN, maintenant, on peut repérer les ancêtres. On peut dire, voilà, ils viennent de telle région d'Afrique, etc. Alors que la France, les joueurs français, donc la plupart d'ailleurs des 23 joueurs de l'équipe de France de la Coupe du Monde, étaient nés en France, sauf deux, Steve Mandanda et Umtiti. Et les autres sont tous nés en France. Et ils savent d'où leurs parents viennent. Ceux qui sont nés en France, ils savent que, bon, par exemple, Kylian Mbappé, en fait, sa mère est algérienne et son père est camerounais. Donc, il n'a pas à revendiquer une identité africaine indéfinie. Il peut dire, voilà, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, Kylian Mbappé, moi, ma mère est algérienne, mon père est camerounais. Et c'est pour ça qu'ils ont tous dit, nous sommes français. Donc ça n'est pas du tout, c'est pas une question d'opposition de valeur. Je crois que les États-Unis et la France n'ont pas du tout la même histoire. Et ça explique que ce fantaisiste, cet humoriste américain.
Américain, Trevor Noah, et sud-africain. Hein.
Et sud-africain, disent, voilà, l'équipe de France est africaine, ce qui en France n'a pas de sens. Parce que les Noirs qui jouent dans l'équipe de France ne se considèrent pas comme africains. Ils ont des parents qui viennent du Congo, du Cameroun, du Burkina Faso, etc.
Mais peut-être que si, et peut-être qu'ils le considéraient si on laissait aussi ici en France, on avait cette acceptation des doubles identités.
Mais ça marche pas. Le concept d'Afropéen, par exemple, ou d'Afropolitain, ça marche pas en France. Ça pourrait, mais ça ne marche pas.
Et ce qu'on voit... Vous voulez terminer là-dessus, sur cette différence de vision, de conception américaine?
Non, mais la conception est délicate à faire. Mais moi, je pense que c'est un sujet sur lequel je m'étais interdit de me prononcer parce que chaque la dernière fois en 98, j'étais en France quand on avait gagné la Coupe du Monde, on nous a bassiné sur l'histoire de Black Blanc Beurre. J'ai l'impression que chaque fois que la France obtient une victoire, il y a une certaine séparation pratiquement qui se... Le débat n'est pas arrivé aux États-Unis par la cuisse de Jupiter, c'est la France qui a commencé le débat, qui a ramené les débats vers là-bas. Pour nous, c'est qu'il faut... Ces joueurs, c'est vrai, ce sont des Français. Mais il ne faut pas que l'eau chaude oublie qu'elle a été froide. Il faut qu'on rappelle toujours quand même que, voilà, il faut laisser la liberté à ces joueurs s'ils veulent célébrer, s'ils veulent aller en Afrique. Ce sont des individus. Moi, je vois des Européens qui sont fiers d'avoir des origines russes.
Merci beaucoup à vous, camarade Gauze, camarade Papa, aux nouvelles, Attila. Merci à vous, camarade Mabankou. Les cigognes sont immortelles et peut-être aussi éternelles. Votre roman vient de paraître au Seuil. Merci enfin, Jean-Loup Amsel. Je rappelle
camarade
que ce...
Jean-Loup Amsel.
Camarade.
j'ai pas osé. On a conquis tout le monde, là. C'est bien, les gars.
Camarade Amsel,
camarade
merci.
Thomas, tu as entendu. Hein.
En quête d'Afrique, ce dialogue mené avec Souleymane Bachir, Diane, est publié chez Albin Michel et sortira le 6 septembre en librairie. Et merci beaucoup à toute l'équipe de La Grande Table et rendez-vous dès lundi. Pour l'heure, il est 13h31 sur France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Grandlund.